et France 24 présentent
Mardi politique.
Bonsoir, c'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière qui est d'excellente humeur et qui chante sur le plateau.
Tout à fait. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
Ce soir, nous recevons Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat. Bonsoir et merci d'être avec nous.
Donc, bonsoir.
Aujourd'hui, c'est un grand jour puisqu'il marque la réouverture des cafés et restaurants, uniquement en terrasse à Paris. Emmanuel Macron a tweeté « C'est le retour des jours heureux ». C'est un enthousiasme que vous partagez ?
Je ne sais pas si on peut réduire ce retour des jours heureux seulement à l'ouverture des terrasses lorsqu'on est en zone orange ou la réouverture des bars et des cafés en zone verte. Je pense qu'il faut un peu plus. Mais en tout cas, c'est un bon signe. Ça veut dire que la vie reprend ses droits. Et c'est important dans la mesure où la France a été pendant près de 2 mois mise sous cloche. Le confinement a été extrêmement rigoureux. Les Français d'ailleurs l'ont éprouvé. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une belle chose, une bonne chose que les cafés, cet art de vivre français puisse s'exprimer à nouveau partout dans les villes et les villages de France.
Bruno Retailleau, des contraintes sanitaires extrêmement importantes ont été imposées à tous les établissements, bars et restaurants, y compris dans les zones vertes. En ce qui concerne les zones oranges, l'Île-de-France en l'occurrence, ce ne sont que les terrasses. Est-ce que vous croyez que ces établissements vont pouvoir supporter économiquement ces contraintes ? Et dans quelques jours, par exemple, la météo nous annonce qu'il ne fera pas bien beau en région parisienne. L'activité des bars et restaurants sera quasi réduite à zéro.
C'est tout le problème. C'est le problème du dilemme que ont un certain nombre de restaurateurs. Soit ils ouvrent et du coup ils peuvent fonctionner à perte, ou soit ils restent fermés et de toute façon ils vont perdre une clientèle. Il faudra évidemment on va l'examiner dans le cadre du nouveau collectif budgétaire qui sera délibéré en Conseil des ministres le 10 juin prochain. Je pense qu'il faudra évidemment un certain nombre de mesures d'abandon de charges. Ça a déjà été dit, charges fiscales ou charges sociales, mais il faudra un plan de soutien au tourisme. Le Premier ministre a annoncé un certain nombre de mesures. Je crains qu'elles ne suffisent pas, puisque, comme vous le soulignez, ces mesures de petite ouverture, en tout cas notamment en zone orange, ne permettront pas à ces entreprises de retrouver leur point mort, c'est-à-dire le point de l'équilibre financier.
Alors, l'État a montré sa puissance avec les prêts garantis de l'État, les aides, le chômage partiel, les plans de relance pour les gros navires comme l'automobile ou l'aéronautique. Si la droite avait été au pouvoir, aurait-elle été si généreuse avec ce que la gauche appelle aujourd'hui l'argent magique ?
Il y a eu deux choses. Il y a eu bien sûr la crise sanitaire. Je pense que la crise sanitaire n'a pas été bien gérée en France. On s'est contenté de mettre la France sous cloche, c'est-à-dire d'arrêter toutes les activités, d'avoir une stratégie du confinement qui est une stratégie essentiellement défensive. Et on a oublié la stratégie offensive qui a été celle que les pays gagnants, qui se sont les mieux comportés face au virus, a pu, si j'ose dire, limiter les dégâts. Cette stratégie offensive, c'est bien sûr dépister très largement pour ensuite tracer les cas qui pouvaient avoir été des cas contaminés et ensuite isoler les personnes qui pouvaient être elles-mêmes contagieuses. Et c'est parce que nous n'avons pas mené cette stratégie offensive que nous avons dû mener un confinement très long et très très rigoureux qui a atteint évidemment la substance économique et qui devrait faire de grands dégâts sociaux à la rentrée prochaine. Je pense que si la droite avait été au pouvoir, il faut toujours rester humble, mais je le dis moi depuis plus d'un mois et demi ou 2 mois, je pense que on aurait pu gérer différemment la crise sanitaire. Il y a eu trop d'atermoiements, trop d'ordre et de contre-ordre, et je pense en revanche que les décisions qu'a prises le gouvernement, je les ai accompagnées avec mon groupe au niveau des deux collectifs budgétaires. J'avais même d'ailleurs fait dans un grand journal économique avant le premier tour des municipales des propositions sur le chômage partiel qui ont été reprises.
On va en parler parler. Hein.
Ouais, pendant les premières semaines, Bruno Retailleau, de l'épidémie, on a bien vu que la priorité absolue a été donnée à la protection de la santé, priorité à la vie, priorité sur l'économie, au sacrifice en quelque sorte de l'économie. Est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu du recul de l'épidémie et du fait que la plupart des spécialistes aujourd'hui disent qu'ils ne voient pas de deuxième vague arriver, est-ce qu'il aurait peut-être fallu renverser un peu les valeurs et se dire que on était moins contraignant pour que l'économie reparte plus vite?
Ce que je veux dire d'abord, c'est que vous ne pouvez pas séparer d'un côté la sauvegarde de la vie et l'économie de l'autre. On a très bien vu qu'avec le confinement, cette espèce de claustration collective avait eu aussi des effets collatéraux sanitaires extrêmement graves. Je pense par exemple à nos personnes âgées qu'on a trop souvent abandonnées dans les EHPAD. Je pense aussi à nos aînés qui se sont, abandonnés eux-mêmes dans un syndrome de glissement. Je pense aussi aux médecins généralistes qui ont vu un effondrement des consultations de près de 40%. Et on voit bien, je l'ai vu dans ma propre région il y a quelques semaines, que les lits de réanimation étaient trois fois plus occupés par d'autres cas, par exemple, de malades chroniques, d'affections de longue durée, que par des malades Covid. Donc on voit bien que le confinement a aussi eu, même si sans doute il fallait avoir une période de confinement plus ou moins rigoureuse pour désengorger les services de réanimation, mais il y a eu aussi, je tiens à le rappeler, des conséquences négatives en termes de santé. Je pense qu'aujourd'hui, la vie doit reprendre son cours. Je pense qu'il doit y avoir une amélioration. On le voit, c'est sans doute cette fameuse courbe en cloche que l'épidémie pourrait suivre comme beaucoup d'autres épidémies. Avec l'arrivée des beaux jours, le virus recule. Et donc progressivement, prudemment aussi, avec des gestes notamment qui convient d'observer, des gestes de précaution, de prudence. J'ai toujours été, moi, un partisan du port du masque. Là, évidemment, où on ne peut pas respecter les mesures de prudence, je pense qu'il faut faire attention. Mais la vie économique, la vie tout court doit reprendre. Parce que sinon, les dégâts seront supérieurs, y compris sur le plan sanitaire.
Alors, les Républicains proposent un plan de relance. D'abord, première question, est-ce que vous avez, dans votre propre camp, tranché entre les libéraux et les étatistes? Parce qu'on a toujours... Il y a l'un et l'autre. Donc, chez la droite. Et qu'est-ce que vous proposez de différent de ce qui est fait aujourd'hui ?
La question de savoir si la droite sociale doit être effectivement tournée vers ce secteur social, vers l'étatisme, la question de savoir si elle doit être plus libérale, plus conservatrice, ou plus souverainiste, ou plus régalienne, je pense que ça relève d'une fausse querelle. Et je vais vous dire pourquoi. Quand on veut mettre un adjectif, un épithète à la droite, c'est forcément pour s'excuser. Je pense que, pour ma part, la droite doit occuper la totalité de son champ des idées, de son champ idéologique. Elle doit être libérale parce qu'en France, nous sommes les champions du monde de la dépense publique. Et on a vu, notamment pour les dépenses de santé, que même si on a des dépenses de santé qui sont parmi les premières d'Europe avec le Danemark, eh bien nous avions du personnel soignant que nous n'arrivions pas à bien équiper. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de relation entre d'un côté la dépense publique et de l'autre la qualité des services publics. Sinon, on serait les champions du monde, toutes catégories confondues, justement de tous les services publics. Donc je pense que quand on est champion du monde de la dépense publique et de la fiscalité, il faut aimer la liberté. La liberté, on l'a bien vu d'ailleurs, ça a été la liberté d'un certain nombre de médecins, de soignants, de services dans des hôpitaux, ça a été la liberté des collectivités locales, des entreprises qui ont relevé le défi. Mais il faut être... La question sociale, pour moi, elle est de retour. Parce que c'est important. Je pense qu'Emmanuel Macron a atteint notre modèle social.
Donc d'être plus, Monsieur Retailleau, ça veut dire d'être plus protecteur que réformateur, en quelque sorte, plus protégé que réformé, désormais.
Je pense que ce que je veux dire, c'est que la droite doit répondre non pas à elle-même, mais elle doit répondre aux Français. Alors le problème des Français, il est économique, il est social, il est régalien. En termes d'autorité de l'État. Il est aussi souverainiste. il est aussi de vouloir parfois conserver un certain nombre de valeurs. Donc je pense que la droite, si j'ose dire, ne doit pas accoler derrière ce mot, ce substantif de droite, un autre adjectif, mais elle doit répondre aux préoccupations des Français. Cette préoccupation de la protection, elle est évidente. Je voudrais rappeler quand même que Emmanuel Macron, le 10 mars, a morigéné le chancelier autrichien parce que ce dernier avait fermé les frontières entre l'Autriche et l'Italie. Pourquoi cette haine des frontières alors que on parlait de mesures barrières? Les mesures barrières, c'est comme la frontière. C'est aussi une protection. Et je pense, pour ma part, qu'il faudra que l'Europe se réarme et qu'on puisse avoir un bouclier vert, notamment à nos frontières européennes.
Bruno Retailleau, à propos de ce plan donc que les Républicains ont préparé, plan de relance pour l'économie française, le président de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée, Éric Woerth, dit, je le cite, hein, le gouvernement ne peut pas se contenter d'annoncer une fragmentation de plans de relance. Il évoque par là ceux qui ont été annoncés pour l'aéronautique, le tourisme, la culture. Est-ce que ça veut dire que pour vous, ce qu'il faut, c'est un plan massif dans toutes les directions et simultanément?
Oui, je pense que Éric Woerth, qui est ce président que vous citez de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, a totalement raison. Je pense que le gouvernement ne doit pas attendre. Bruno Le Maire a promis un plan plus général à la rentrée. Je pense que ce sera trop tard. Pourquoi ? Parce que les entreprises, dans cette période d'incertitude, ont besoin d'un petit peu de certitude. Et je pense que laisser passer l'été, ce serait aggraver le problème. On sait depuis ce matin que le risque pour l'économie française, ça n'est pas d'être à moins 8% de croissance, mais sans doute à moins 11%. Je voudrais simplement rappeler à vos téléspectateurs, vos auditeurs, qu'au pire de la crise, il y a un peu plus de 10 ans, en 2009, nous avions fait 2,9% de destruction de richesse nationale. Là, ça sera plus de 3 fois plus. Donc, il faut désormais un plan global qui puisse articuler, en revanche, le court terme et le moyen terme. Le court terme, ce sera de répondre par exemple aux 700 000 jeunes qui vont être des diplômés, qui vont rentrer sur un marché du travail à la rentrée prochaine totalement déprimés. Ce sera les apprentis, ce sera aussi beaucoup de gens qui peuvent... Oui, mais je pense qu'il faut l'annoncer, y compris notamment pour les chômeurs qui sont aujourd'hui en chômage partiel, qui pourraient passer en chômage, au chômage tout court. Moi, j'ai fait une proposition, notamment avec des congés formation. Mais il faut plus généralement, je crois, pour relancer la machine économique française, un plan d'investissement aussi bien public que privé, parce qu'on a un choc d'offres très, très important. Et vous savez, ce sont les entreprises qui créent l'emploi. Et c'est avec de l'investissement... Et là aussi, comme on a déconfiné très tardivement, beaucoup d'autres pays européens ont déconfiné avant nous et ils vont conquérir des marchés avant nous aussi. Donc je crois que je suis, moi en tout cas, favorable d'un plan beaucoup plus global
l'été. Pas perdre de temps, donc si on vous écoute. Le Sénat, comme l'Assemblée nationale, va mettre en place une commission d'enquête. Donc est-ce que c'est de nature à faire le clair sur certains dysfonctionnements et en tirer les leçons, ou c'est de nature à fragiliser la majorité parce que la politique reprend ses droits et la droite est dans l'opposition? Alors même si elle fait des accords, on va essayer d'en dire un mot au municipal avec la droite, est-ce que c'est de nature à aller titiller l'exécutif?
Ça n'est pas l'objectif que nous avons au Sénat. Vous pourrez d'ailleurs observer que sur les 4 ou 5 textes que le gouvernement nous a proposés depuis le plan d'urgence sanitaire, le Sénat a voté les textes que le gouvernement lui a proposés. Ça signifie que, certes, nous sommes dans l'opposition, mais en revanche, nous avons une conscience aiguë de nos responsabilités et nous ne sommes certainement pas dans un réflexe pavlovien d'une opposition systématique. La preuve. En revanche, si nous avons voulu créer une commission d'enquête, c'est parce que les Français ont droit de savoir. Les Français ont très bien senti qu'avec l'affaire des masques, mais avec beaucoup d'autres points qui ont laissé franchement à désirer pendant toute cette crise, on avait des marges d'amélioration. Donc le Sénat ne se transformera pas en tribunal. Ça n'est pas notre fonction. En revanche, il doit y avoir une responsabilité politique à laquelle le gouvernement et tous les acteurs qui ont participé à la gestion de cette crise doit répondre. L'objectif, bien entendu, c'est de faire en sorte qu'on pointe nos faiblesses pour qu'on puisse se préparer demain soit à une résurgence de ce virus, soit à d'autres pandémies qui viendront dans les prochaines années.
Oui, donc il faut être plus fort demain.
Et je crois que la démocratie, vous savez...
Frédéric. Oui.
Bien Bruno sûr, Retailleau... c'est d'en tirer les leçons. Mmh. Et la démocratie, c'est les contre-pouvoirs aussi.
À propos des municipales, Bruno Retailleau, Roselyne l'évoquait il y a quelques instants, il y a ici et là des accords entre La République En Marche et les Républicains. On pense en particulier à Lyon. Qu'est-ce que ça signifie, ou à Bordeaux? Qu'est-ce que ça signifie? La République En Marche voit les Républicains comme étant plus ou moins du centre, ou que vous, vous voyez La République En Marche comme étant plus ou moins de droite?
Ça signifie simplement que les municipales 2020 pour La République En Marche sont un échec. Le premier tour avait été un échec sur les communes où il y a une dimension politique, c'est-à-dire les communes de plus de 9000 habitants. LR, avec ses alliés, avait gagné un peu plus de 55% dès le premier tour. En Marche, moins de 5%. Donc, c'est un échec. Alors, cet échec, on n'en a pas fait le constat. Pourquoi ? Parce que au premier tour, nous avons été submergés par cette crise sanitaire. Il ne s'agissait pas de tirer des enseignements politiques à l'époque, au moment du premier tour. En revanche, on voit bien que s'il y a le ralliement Gérard Collomb, finalement s'efface. En plus, Gérard Collomb était beaucoup plus en marge qu'en marche depuis finalement sa démission en octobre 2018. Donc on voit bien que...
Mais à Bordeaux, par exemple,
réalité,
à Bordeaux...
C'est LR qui attire.
Oui, enfin à Bordeaux...
À Bordeaux, les choses sont claires. Florian est le écoutez, Monsieur Cazeneuve a fait une contre-performance. Il n'est pas en mesure d'imposer une ligne. À Bordeaux, pour les Bordelais, et les Bordelais, ce sera notre projet qui est au cœur, justement, de cette campagne et qui sera au cœur du second tour, et non pas le projet d'En Marche. C'est un échec que vous constaterez que, y compris sur Paris.
Oui, mais écoutez, justement,
Paris, c'est la division
entre
M. Villani et Mme Buzyn.
Donc, par exemple, si on prend l'exemple de Bordeaux, effectivement, donc il y a cette alliance. Mais est-ce que c'est pas un peu un piège qui se referme aussi sur la droite, parce que c'est une façon de dire, dans le fond, que La République En Marche et la droite peut tout à fait s'allier sur certaines conditions. Et est-ce que votre rôle d'opposant sera du coup crédible?
Avec une réponse plus courte s'il vous plaît.
Il s'agit franchement...
Yvelin.
Il s'agit d'un échec. Il s'agit d'un échec de En Marche qui baisse le pavillon et qui se rallie au projet que nos candidats portent en France.
Ah ben voilà, vous avez réussi.
Merci Frédéric. Maintenant, il nous reste quoi, 30 secondes?
Merci, non, vous effectivement, votre réponse était très synthétique. Vous avez bien entendu la consigne. Merci, on est arrivé au terme de l'émission.
Merci Bruno Retailleau. Merci beaucoup, merci à vous. Merci à Charlotte Urien-Tomaka.
Merci.
Et à Camille Nérand. Et merci à vous Frédéric.
Merci,
qu'on retrouve
à la semaine prochaine.
Chaque matin sur RFI à 7h50.
Non, en ce moment, compte tenu des circonstances, c'est à 8h45.
Ah bon, d'accord, ça change tout le temps. Ok, vous faites bien de me prévenir. Merci Frédéric, à très vite.
Sept milliards de voix.